milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Et aujourd'hui, je reçois en direct des enseignants haïtiens pour parler de l'école en Haïti qui tente de rester debout malgré les cyclones, malgré l'absence de projets politiques aussi. Haïti a le système éducatif le plus privatisé au monde, où la scolarisation des enfants est le premier poste de dépense des ménages haïtiens, malgré des programmes d'exemption de frais d'inscription. Alors pourquoi l'école haïtienne est-elle en panne depuis des années? Comment améliorer la qualité aussi dans un pays où l'on peut ouvrir une école presque aussi facilement qu'une épicerie? Pour en parler, je reçois Martine Princeton. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes professeur de français. Enfin, vous étiez jusqu'à encore il y a peu de temps professeur de français dans le secondaire. Vous enseignez aussi dans le supérieur. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association des professeurs de français en Haïti. Tony Silfin, bonjour.
Bonjour.
Première fois en France, vous?
Première fois, oui, c'est ça.
Enseignant, syndicaliste.
Oui,
c'est au ça. CNEH.
Oui.
Qui est le syndicat enseignant le plus puissant du pays.
Le plus puissant, oui, si on peut le dire, le plus ancien également.
Bête noire des ministres de l'éducation.
On ne va pas le dire et on ne va pas être très catégorique là-dessus. La CNEH, c'est un syndicat très ouvert au dialogue, et à la discussion, dans l'intérêt des enseignants.
Exactement.
Et de l'éducation.
Et de l'école. Ronald Colomb, bonjour.
Bonjour.
Première fois aussi en France.
Première fois, je suis ravi.
On est ravi, nous, de vous accueillir surtout, et très honoré de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Vous travaillez au ministère de la Jeunesse et également au centre d'appui à la jeunesse. Vous êtes tous très impliqués pour l'éducation en Haïti. Vous avez des messages à faire passer, notamment pour l'élection présidentielle reportée en novembre prochain. Et vous êtes de passage à Paris, réunis par l'ONG Solidarité Laïque. Bonjour Joël Dacosta.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes responsable Amérique latine et Caraïbes à Solidarité Laïque et vous nous direz évidemment comment travaille cette association sur le terrain. Et quant à vous, les voisins haïtiens, bien sûr, si vous êtes déjà debout à cette heure très matinale, il est 5h12 du matin à Port-au-Prince par exemple, vous avez la parole, que soyez parents, enseignants ou grands frères. Camille Nérand attend vos appels au 33 1 84 22 71 71 et puis bien sûr tous les autres si vous êtes par exemple sur le continent africain, que vous avez envie de faire un parallèle avec l'école dans votre pays, vous pouvez tout à fait aussi nous appeler à ce même numéro de téléphone. Et pour les voisins haïtiens qui écouteront la rediffusion plus tardive, eh bien sachez que l'émission est dédiée à tous nos fidèles auditeurs en Haïti, pour une fois que j'ai l'occasion de le dire, une île que nous connaissons, que nous aimons, et on aimerait bien vous retrouver d'ailleurs en public à Port-au-Prince un jour pour de vrai. Voilà, dans quelques instants, on démarre nos discussions sur l'avenir de l'école en Haïti. Je vous lis quelques messages postés par vos voisins haïtiens. Cri du cœur de Neftali qui est à Port-au-Prince. Ce sujet pourrait faire l'objet de 3 émissions. Bon, donc vous restez lundi, mardi aussi. Jean-Yves Aléogane nous dit, on parle souvent d'une éducation gratuite accessible à tous en Haïti. Pourtant, le budget du gouvernement pour l'éducation est inexistant. On est tous d'accord que les meilleures écoles haïtiennes sont privées car l'État est démissionnaire. C'est à l'État haïtien de s'engager en premier lieu dans la reconstruction de son système éducatif. Budget de l'éducation insuffisant, vrai, pas vrai? Qui veut commenter? Notre ami syndicaliste.
Oui, et
Tony Silfin.
Le budget consacré à l'éducation, on va dire, et nous, syndicalistes, et nous considérons que ça ne reflète pas vraiment la priorité que les gouvernements disent qu'ils accordent à l'éducation.
On est à combien en pourcentage maintenant?
Et
autour de 10%?
Autour de 17%.
17%, oui, donc oui. Il a quand même pas mal augmenté ces dernières années.
Certainement, oui. Mais cependant, et malgré le budget consacré à l'éducation, ça n'arrête pas les grands enjeux que fait face le système. Par exemple, il y a un grand problème de gouvernance, d'accord? Le budget, oui, d'une part, mais les gouvernances et
la bonne gouvernance,
qu'est-ce qu'on fait du budget, oui.
Et ben c'est pour ça que vous êtes là, justement, oui, on va en discuter. Elsen, à Port-au-Prince, en Haïti, les gens riches aiment les écoles privées car c'est une façon pour eux de se montrer, nous dit Elsen, et pour les autres, de voir qu'ils sont aisés, en tout cas plus que leurs voisins qui envoient leurs enfants à l'école publique. Il y a une histoire qui circule d'un parent qui aurait demandé à un directeur d'école privée d'augmenter les frais scolaires pour que les pauvres ne puissent pas venir. Une logique de lutte des classes. Qu'est-ce que vous répondez à ce témoignage?
En effet, on peut confirmer Effectivement, en Haïti, l'école, enfin, les écoles privées représentent 85%
et
de l'offre. Écoles. Oui, 85% de l'offre. Et les écoles sont chères et les meilleures écoles sont les plus chères. Donc, les gens qui sont aisés, ils envoient leurs enfants non pas dans des écoles publiques, mais dans des écoles privées. Qu'il s'agit de fonctionnaires, enfin, d'autorités publiques, de gens, enfin, les gens qui travaillent en général, leurs enfants vont dans des écoles privées.
$130 en moyenne par an et par enfant pour scolariser son enfant dans un pays où les salaires restent évidemment extrêmement bas. Vous nous appelez maintenant, si vous nous écoutez, y compris en région parisienne, si vous sentez concerné par l'école en Haïti, 33 1 84 22 71 71. Je voudrais bien sûr qu'on revienne aussi sur le passage du cyclone Matthew, Martine Princeton, Tony Silfin et Ronald Colomb. Quels dégâts scolaires ont été causés par le cyclone? Joël Dacosta aussi de Solidarité Laïque. Aujourd'hui, vous qui étiez encore en Haïti il y a quelques jours, qui veut s'exprimer là-dessus?
Certainement, l'infrastructure scolaire a été vraiment frappée par les cyclones. Comme vous le savez déjà, il y a environ 6 ans déjà, depuis que le séisme s'est passé sur Haïti, et encore aujourd'hui, un cyclone, ça quand même a affaissé surtout le système éducatif parce que ça a frappé l'infrastructure scolaire. Et certainement, on est encore à l'heure du bilan, et certainement parce que les autorités ont passé environ 2-3 jours avant d'avoir eu des informations sur la région. Et lorsqu'on a commencé à avoir des informations venues et de la Grand-Anse, surtout du Grand Sud, et les informations n'ont pas été vraiment trop exactes, les chiffres, bien sûr. Et jusqu'à l'heure, la CNUH, par exemple, a envoyé ses représentants.
Votre syndicat, donc.
Notre syndicat, bien sûr, a envoyé ses représentants de la zone aller faire des enquêtes quand même pour voir quelles propositions qu'on peut faire, comment on peut aider. On a dénombré, par exemple, environ 300 écoles et touchées fortement.
Plus de 300 écoles selon l'UNICEF, détruites ou partiellement détruites.
Oui.
Le cyclone a fait près de 500 morts, il faut le dire également.
Oui, c'est ça. Oui. En fait,
La chiffre pilule.
Oui, en fait, il y a toute une polémique autour de cette question de morts, de nombre de morts, parce que l'État haïtien parle de 500, de 400, mais les organisations internationales qui sont quelquefois sur le terrain parlent de 1000, de 1500. Au fait, là, il y a toute une polémique là-dessus.
Oui, parce que
c'est assez compliqué, en fait, d'avoir des informations vérifiables, parce qu'il y a certaines communes qui ont des grosses difficultés d'accès. Par exemple, la commune qui est la plus à l'ouest, qui est Damari, qui se trouve à 2h30 de Jérémy, le chef-lieu de la Grand-Anse. On a eu des informations de cette commune il y a à peine 3 ou 4 jours. Et les informations qui nous remontent à travers nos différents partenaires, le maire et des représentants des syndicats et des associations de jeunesse, sont très, très préoccupantes. Donc les structures éducatives sont touchées, mais on entend de plus en plus parler de cas de choléra, de malaria qui commence aussi à augmenter. Et malheureusement, dans quelques jours, la famine va sans doute toucher ce département.
Ouais, ce qui veut dire que finalement, la remise sur pied des écoles n'est pas la priorité la plus immédiate. Alors, l'élection présidentielle a été reportée en novembre et janvier prochain pour le deuxième tour à cause de l'ouragan. Elle avait déjà été annulée, reportée. Est-ce que l'éducation aujourd'hui est un sujet réellement, profondément abordé dans la campagne? Martine Princeton.
Alors, juste avant de répondre, d'aborder ce point, je dirais aussi qu'il faut signaler que après l'ouragan, donc les écoles n'ont pas fonctionné en Haïti pendant une semaine, mais dans la Grand-Anse, jusqu'à aujourd'hui, les établissements sont encore fermés parce que les écoles servent de centre d'hébergement.
Oui. Voilà. Et sur l'élection présidentielle?
Sur l'élection présidentielle, l'éducation encore, malheureusement, n'est pas une priorité. Il n'y a pas de plan proposé par les candidats qui concernent l'éducation en particulier.
Oui, je vais abonder dans le même sens pour dire que depuis plusieurs années, plusieurs décennies, l'éducation reste seulement un thème de campagne, mais dans la pratique, rien n'est fait vraiment pour avancer, pour changer et l'enseignement pour quand même faire des réformes et apporter
Il
n'y
a pas
des...
qu'en Haïti, hein, je vous rassure, où l'éducation n'est qu'un thème de campagne.
Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, rien n'est vraiment avancé. Il n'y a qu'après les élections, donc tout est clos, le débat est clos là-dessus. Les gouvernements, les ministres changent.
On a promis, on ferme le dossier, c'est ça?
Oui, oui.
Ronald Colomb.
Oui, en fait, la remarque que nous faisons en Haïti, c'est que pour les problèmes que nous évoquons, que nous voyons dans l'éducation, on dirait qu'on a une montagne à déplacer et pourtant on a très peu de bras pour nous aider à le faire. Parce que lorsqu'on constate que la moitié de la population, et pas la moitié, et 75% de la population vivent avec moins d'un dollar par rapport au jour, et lorsqu'on sait aussi, les chiffres le disent, qu'il y a 65% du revenu d'une famille passe dans l'éducation. Et voilà, avec moins que 2 dollars, et lorsqu'on fait la relation, 65% de 2 dollars, ça fait 1,30. Donc 1,30 pour seulement l'éducation. Et voilà, il y a les autres besoins, la nourriture, le logement.
Mais alors, que se passe-t-il? Parce que voilà. Quand même, la scolarisation a progressé. On a près de, sur le papier en tout cas, près de 90% des enfants d'une classe d'âge qui, en âge scolaire qui vont à l'école. Mais que se passe-t-il quand les parents ne parviennent pas à payer la totalité des frais, puisque l'école est payante partout d'ailleurs, y compris, il y a des frais à débourser en fait partout, y compris dans les écoles publiques, qui sont d'ailleurs minoritaires. Que se passe-t-il concrètement?
C'est ce que j'essaie de dire là, en évoquant les chiffres. Lorsqu'un parent, lorsqu'une famille a 2 dollars par jour et l'éducation seulement coûte 1,30 $, et les autres besoins, nous savons tous ici que les autres besoins, la nourriture, le logement, l'habit, et le logement, je dis. Donc,
mais ça veut dire qu'on s'arrange avec le directeur ou pas dans ces cas-là?
La première solution, justement, la première solution, les enfants restent à la maison.
Les enfants restent à la maison.
Donc, environ 25% des enfants en âge d'aller à l'école ne fréquentent pas les salles de classe.
Oui. On parle de 200 000 enfants qui ne sont pas scolarisés.
Oui, et en plus, on se rend compte que parmi ces 200 000 enfants non scolarisés, vous avez les plus pauvres, en fait. Donc, les chiffres d'amélioration que vous venez d'annoncer ont été réalisés grâce, en fait, à l'accès de l'éducation pour les enfants qui ont, on va dire, un peu plus de moyens que les autres. Et vu qu'il y a une paupérisation de plus en plus importante de la population haïtienne, vous vous rendez compte que les inégalités se creusent. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, publiques, de bonne qualité ou de mauvaise qualité, le font. Mais les autres, comme vient de le dire Martine, malheureusement, laissent leurs enfants à l'école. Et quand, là, on ne l'a pas évoqué, mais quand vous avez le choix d'envoyer soit votre fille, soit votre garçon à l'école, le premier choix, c'est d'envoyer le garçon et la fille reste également au domicile.
Problématique de genre.
Vous nous appelez, on parle de l'école en Haïti, un secteur qui est largement privatisé depuis plusieurs années. D'ailleurs, on va essayer d'expliquer pourquoi on est arrivé à un tel taux de privatisation d'un secteur entier qui est tout de même crucial pour le développement d'un pays. Appelez-nous au 33 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Joël Dacosta, alors justement, pourquoi on est arrivé à près de 85% des écoles primaires en Haïti qui sont privées, c'est-à-dire détenues, soit des écoles confessionnelles, on a 3000 établissements qui sont des écoles protestantes, et puis après il y a des écoles qui appartiennent à des fonds privés, des écoles laïques qui sont réellement des commerces en fait, qu'on appelle Exactement. Les écoles borlettes du nom du loto haïtien, forme d'humour, pas si drôle que cela, mais ou qui ouvre vraiment pour générer des bénéfices sur le dos des ménages haïtiens. Comment on a pu arriver à une telle situation?
Je pense qu'on se rend compte qu'à partir des années 70, il y a eu vraiment une dérégulation totale du système éducatif, c'est-à-dire que l'État a abandonné complètement en fait, le système éducatif. Et donc progressivement, vu que la croissance démographique en Haïti a été très importante lors des 40 dernières années, on se rend compte rapidement que l'offre, on va dire, publique n'a pas réussi non plus à répondre à la demande de plus en plus exponentielle. Et donc l'éducation, comme on vient de le voir, étant une des priorités des familles, bon nombre d'entreprises, d'associations, d'organisations des plus diverses se sont rendues compte en fait qu'il y avait entre guillemets un marché à gagner. Et vu que à côté de ça, en parallèle, l'État n'a pas pris les vraies décisions pour empêcher en fait ce marché privé de grossir. Donc année après année, décennie après décennie, on est arrivé à ce constat d'avoir 85% des écoles privées, 75% des élèves qui rentrent en fait à l'intérieur de ce système privé qui, pour la plupart, n'est pas du tout régulé aujourd'hui encore.
L'État a aussi subi la pression des bailleurs de fonds qui ont largement véhiculé le discours que pour arriver à l'éducation pour tous, il fallait que ce soit le secteur privé qui prenne le relais. Et puis du secteur privé lui-même aussi, qui a mis la pression pour obtenir des aides.
Oui, oui, c'est bien ça. Bah, on se rend compte que la Banque mondiale, par exemple, a financé depuis plus de 10 ans bon nombre d'écoles privées pour avoir des bons chiffres en termes d'accès à l'école. Mais après, bon, voilà, ça a été aussi l'un des arguments et on va dire l'un des effets.
Parce
de
que le secteur privé fonctionnait aussi pas mal. Donc,
exactement.
Voilà.
Oui, mais il faut préciser aussi que au niveau du secteur privé, les écoles fonctionnent sans accréditation. Donc, il n'y a pas un contrôle de l'État.
Oui, c'est dans le même sens que j'allais abonder pour dire que les bailleurs pouvaient imposer leurs normes, mais si l'État haïtien avait une politique éducative clairement définie, quand même, il serait obligé d'entrer dans ce cadre-là. Eh bien, le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas une politique éducative définie. Et ensuite, une absence de volonté politique de la part des autorités. D'accord.
Donc, la faute sur les bailleurs. Vous dites que les bailleurs ont pu imposer leur vision parce que l'État n'en avait pas, grosso modo.
L'État ne sait pas quand même quelle politique, ne définit pas la politique éducative.
Ça a été un choix. On a un problème avec le choix. Oui, c'est vrai, mais il faut dire que ça n'a pas permis de résoudre le problème de l'accès à l'éducation et encore moins de la qualité de l'éducation.
Ah, mais alors, attendez, il y a quand même un programme d'exemption de frais d'inscription qui a été lancé il y a presque 10 ans. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Parce que ça revient à donner de l'argent à des écoles privées, puisque la majorité des écoles sont privées, c'est ça, hein? On donne 90 dollars par an et par enfant, c'est bien ça?
Ah, voilà, vous parlez spécifiquement de PSUGO, le programme gratuit et universel. Oui, c'est vrai, c'est un programme qui a... Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais il y avait beaucoup de sous là-dedans. Et ce programme-là a permis de renforcer l'inégalité. Parce que, précisément, c'est les écoles publiques et privées qui ont le plus bénéficié de ces fonds-là.
Mmh. Enfin, ça a quand même permis à des familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Si 90 dollars étaient pris en charge par l'école elle-même, qui reçoit cette somme de l'État.
Mais il n'y a aucun moyen de donner une formation de qualité avec 90 dollars pour une année.
Bien sûr.
À un élève. Donc, c'est dire que à partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'autres écoles qui ne répondent à aucun norme de qualité qui prennent naissance. Et l'argent a passé outre le système éducatif. C'est vrai que les gens parlent de l'école, mais il n'y avait pas d'école.
90 dollars par an et par enfant, on ne peut pas fournir une éducation de qualité pour ce prix-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État mette plus, c'est ce que vous voulez dire aussi, Tony Sylvain?
Le programme est en soi, et nous, syndicalistes haïtiens, on a été très critiques dès au départ. Pourquoi? Parce que l'État pouvait se renforcer les institutions publiques, parce que l'éducation, c'est une charge de l'État, d'après la Constitution haïtienne. Donc, l'État ne devrait pas entrer dans cette logique-là d'aller vers le secteur privé.
Le droit à l'éducation, ça fait partie de la Constitution, le droit à l'éducation.
Certainement, oui. L'État devait prendre ça en charge, renforcer les écoles publiques, créer plus d'écoles. Avec ça, l'accessibilité serait plus favorable pour tout le monde. Et par la suite, on va dire, la question de qualité, quand même, viendrait par la suite. L'État pourrait...
Mais ça, là, on parle de la qualité, mais ce programme, il a quand même permis d'augmenter le nombre d'enfants à l'école, non?
C'était peut-être l'objectif, mais là encore, on revient sur les 17% du budget
consacré à
l'éducation. Donc quand même, 17%, c'est signifiant, mais ces 17% n'ont pas permis vraiment d'apporter une solution au problème éducatif.
Alors, on va y revenir. Hein. Ces 17%, c'est la condition, d'ailleurs, pour avoir des aides des bailleurs internationaux. Donc, on demande toujours, dans ces cas-là, ce que l'État lui-même investisse dans l'éducation. Vous restez avec nous, les voisins haïtiens, de passage en studio. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes pour poursuivre le débat sur l'avenir de l'école. En Haïti, vous nous appelez au 33 1 84 22 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Gros plan sur l'école en Haïti aujourd'hui, un pays où le calendrier scolaire est rythmé depuis des dizaines d'années par les crises économiques, politiques surtout et les catastrophes naturelles. On en discute avec vous, Martine Princeton, vous êtes enseignante, membre de l'Association des professeurs de français en Haïti. Tony Silfin, vous êtes syndicaliste, vous appartenez au puissant syndicat le CNEH et vous êtes bien sûr enseignant. Ronald Colomb, vous travaillez au ministère de la Jeunesse et également au Centre d'appui à la jeunesse. Vous êtes tous de passage à Paris, réunis par l'ONG Solidarité Laïque. Avec vous, Joël Dacosta, responsable Amérique latine et Caraïbes à Solidarité Laïque. Et bien sûr, vous nous appelez pour participer à l'émission. On parle de l'État qui faillit à sa mission pour encadrer l'école. On parle de cette privatisation du système, puisque 85% des écoles primaires aujourd'hui sont des écoles privées en Haïti. On a dans ces écoles privées 30% d'écoles qui sont vraiment détenues par des faiseurs de business, les fameuses écoles Borlet, d'autres écoles privées confessionnelles de bonne qualité, mais souvent inaccessibles aux ménages haïtiens qui doivent consacrer en moyenne $130 par an et par enfant pour scolariser son enfant à l'école primaire. Comment se permettre de telles dépenses dans un pays aussi pauvre? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Un voisin nous appelle de Port-au-Prince. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel. Bonjour aussi aux professeurs qui sont au studio. J'écoute à Port-au-Prince. Je réponds au nom de Wilfred Gilles, professeur sciences sociales privé.
Professeur, vous êtes dans le supérieur ou dans un lycée?
D'abord, supérieur aussi, mais parce que j'ai fait une maîtrise en éducation au développement durable. Mais oui, j'enseigne avant et jusqu'à présent dans les écoles privées en Haïti.
Alors, il est de très bon matin pour vous. Il est 5h30 du matin. Merci de nous appeler. Que souhaitez-vous ajouter au débat qui a déjà bien démarré? On était en train de parler juste avant le flash des résultats de ce programme d'exemption des frais d'inscription qui a été lancé il y a près de 10 ans, où ce sont des sommes qui sont versées directement aux écoles privées pour permettre d'accueillir davantage de familles très modestes qui ne pourraient pas scolariser leurs enfants sinon. Comment vous ressentez la situation à l'heure actuelle?
Merci pour l'opportunité. Je dois vous dire, pour moi, c'est une catastrophe. En Haïti, on peut constater vraiment qu'il y a plusieurs types d'écoles en Haïti. Ça dépend de autres moyens pour aider nos enfants à aller à l'école. Par exemple, quand on parle de l'école congréganiste en Haïti, les écoles congréganistes,
les écoles congréganistes, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle les écoles confessionnelles, ou protestantes.
Les écoles catholiques qui sont subventionnées par l'État haïtien. Et on ne peut pas oser, un parent ne peut pas oser d'envoyer un enfant d'aller à l'école congréganiste si on n'a pas beaucoup d'argent. Ça veut dire, il y a d'autres écoles qu'on les appelle les écoles de mission, comme on peut prendre par exemple baptiste, protestante, adventiste et pentecôtiste. Il y a d'autres écoles qu'on appelle l'école presbytérale. Et celles-ci sont plus pauvres en termes de qualité. Il y a aussi des écoles qu'on appelle écoles communautaires, qui sont relatives, récentes, et sont soutenues par des ONG ou des associations. On peut dire aussi qu'il y a des écoles commerciales, dont certaines sont appelées écoles Borlet.
Oui, 30% des écoles privées. 30% des écoles privées qui sont des écoles vraiment business. Alors, vous nous parliez des écoles congréganistes. C'est 1% des écoles privées, les écoles protestantes, c'est 13%. Les écoles communautaires gérées par une communauté, donc souvent dans des zones rurales, c'est 15%. Enfin, tout ça, ça fabrique 84% des écoles privées. Et vous déplorez, nous dites-vous, Gilles, que l'État, finalement, finance ce secteur qui est déjà complètement privatisé.
Exactement. Or, l'État n'a pas créé conditions à ce que les autres écoles et soit aussi des écoles de qualité.
Oui. Mais Gilles, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on répète la même chose sur l'école en Haïti. Alors là, si on veut avancer un peu, qu'est-ce que vous préconisez?
Mais c'est pas même 10 ans, parce que moi j'ai travaillé sur le baccalauréat ici de 1980 à 2014. J'ai pu constater, là, c'était une catastrophe. Et on ne peut pas même oser le dire, on ne peut pas même dire qu'on peut donner au moins 50% aux examens officiels. Il y a certaines écoles qui ont obtenu 100%. Et il y a certaines écoles en Haïti, la majorité des écoles en Haïti ont obtenu 0% aux examens de baccalauréat. C'est-à-dire que c'est une catastrophe.
Attendez, moi, vous voulez dire 0% de taux de réussite au baccalauréat dans certaines écoles?
Mais bien sûr.
C'est-à-dire
bien
pas
sûr,
un seul
bien
reçu.
Sûr, il y en a ça en Haïti. Non. Il y en a ça en Haïti. Moi, ce que je demande aux autorités, de prendre la responsabilité. D'avoir une école en Haïti, on ne peut pas avoir plusieurs écoles.
Une mosaïque d'écoles qui s'additionnent. Merci Gilles. Bien sûr, on va laisser la parole à nos invités qui sont en studio, qui sont de passage à Paris. Et on est très contents de les avoir. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bien sûr, vous réagissez au 33 84 22 71 71. Qui veut réagir sur les taux catastrophiques de réussite au baccalauréat, par exemple? Tony Sylvain,
oui,
syndicaliste.
Oui, pour le taux de catastrophique au baccalauréat, eh bien, l'origine du problème même, c'est que dans ces écoles-là, elles n'ont aucun encadrement, bien sûr, et elles sont quand même, et les professeurs qui travaillent dans ces écoles-là n'ont pas été formés. Donc, le taux est évident, il ne serait pas autrement. Donc, si vous voulez, je pourrais revenir au programme du PSUGO. Le PSUGO.
Ça, c'est le programme d'exemption de frais pour les familles les plus pauvres.
Oui. Mais au départ, quand même, il faut dire que ce programme-là a favorisé beaucoup plus de corruption, quand même, et au lieu, quand même, d'atteindre ses objectifs.
De quelle manière? Ça veut dire que les 90 dollars qu'on donnait aux écoles privées pour accueillir ces familles, qu'est-ce qu'ils devenaient, ces 90 dollars par enfant, par tête d'enfant?
Il y a des politiciens qui prennent ces 90 dollars-là, qui créent des écoles fictives. OK, ces écoles-là sont restées sur le papier, alors que ces 90 dollars-là leur sont versés.
Mais attendez, normalement, pour avoir le droit de toucher cette subvention du programme PSUGO, il faut avoir la licence de l'État, c'est-à-dire l'autorisation spécifique d'enseigner.
Cela n'a pas été fait. Ils sont en connivence, peut-être, bien sûr, avec des autorités de plus haut niveau, quand même. D'accord. Il y a des pots de vin qui sont versés et à un niveau ou à un autre, même pour les faciliter ça. C'est ce qu'on remarque. Oui.
Alors là, on parle de corruption, justement venant des autorités publiques, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale qui arrivent à délivrer des autorisations de fonctionnement pour des écoles qui n'existent pas en réalité.
Qui n'ont même pas d'élèves.
Non, il n'y a pas d'élèves. L'école n'existe pas physiquement, il n'y a pas de bâtiment.
J'ai dit ça, des écoles fictives. J'ai mentionné ça. Donc, c'est une sorte de... Bon, c'est, bien sûr, c'est une irresponsabilité de l'État haïtien, du ministère de l'Éducation nationale, d'accord? Parce qu'il faut dire aussi que c'est... En Haïti, le problème majeur, c'est que la politique prime sur tout. Tout est politisé, l'éducation. Et ça corrompt l'éducation.
Et ce qui est bizarre, je ne sais pas si vous entendez à la radio très souvent en Haïti, il y a beaucoup de ces écoles-là qui bénéficient de ces fleuves et qui accueillent des élèves. Et dans ce secteur-là, qui se plaignent de n'avoir pas reçu l'argent qui leur était destiné. Alors que pour ces écoles fictives-là, elles reçoivent leur argent régulièrement et de grosses sommes. C'est-à-dire que c'est tout un arrangement qui se fait pour ces écoles-là que l'on appelle des écoles fictives. Effectivement, ce sont des écoles fictives. Donc, ils reçoivent leur argent régulièrement. Alors que ceux qui font leur travail, même quand ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons, mais quand même, ils sont là. Elles sont là et elles ne reçoivent pas l'argent. Et c'est à tout moment qu'elles sont dans la rue.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce programme qui avait été annoncé comme étant vraiment le pansement pour panser les maux de la privatisation de l'école et pour permettre à des familles de pouvoir enfin mettre leurs enfants à l'école, ce programme-là n'a pas du tout donné les effets escomptés, Joël Dacosta.
Oui, c'est bien ça.
Même accentuer la corruption.
Exactement, ça, je pense, ça fait en sorte que les inégalités ont continué à grandir. Et le plus gros problème, en fait, avec le PSUGO, c'est le manque de transparence complet. C'est-à-dire que lorsque les syndicats d'enseignants ont demandé plusieurs fois d'avoir des rapports officiels par le ministère, bah, je laisserai peut-être Tony compléter, mais à chaque fois, les différents ministres qui se sont succédés ont dit oui, le rapport va arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun rapport officiel, en fait, délivré par le ministère. Et on n'a donc même pas de rapport, on va dire, d'entité extérieure du ministère. Donc c'est vraiment un flou artistique autour de ce programme. Qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on entend à travers les discussions avec les Haïtiens, bah, c'est un petit peu la réalité que vivent la population.
Ce programme a surtout permis aux autorités haïtiennes de faire de la propagande politique.
Oui.
C'est ce que ce programme leur a permis de faire.
Nous, syndicalistes haïtiens, constatant ce gap-j, nous avons exigé à l'État haïtien, par l'État haïtien bien sûr, disons, aux organisations structurées de la société civile de mener des enquêtes, et nous, de notre côté, on l'a fait. Mais lorsque les rapports sont sortis, l'État haïtien n'a rien fait, n'a pas enclenché des procédures judiciaires quand même pour condamner,
sanctionner les écoles qui avaient détourné l'argent.
Certainement, ça n'a pas été fait.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à une voisine qui nous appelle de région parisienne. Bonjour, Rosemary. Rosemary, êtes-vous en ligne avec nous? Vous nous appelez des Yvelines. Bonjour. Rosemary, on ne vous entend pas. Pourtant, on m'annonce qu'elle est bien en ligne. Écoutez, on va essayer de vous... Est-ce que vous nous entendez, Rosemary? Bon, on va essayer de rappeler notre voisine qui nous appelle. Je présume qu'elle est haïtienne, mais je n'en suis pas certaine. Quelle est la situation aujourd'hui des enseignants? Là, je m'adresse à vous, Tony Silfin, syndicaliste enseignant. Et puis, bien sûr, à vous aussi, Martine, qui est enseignante. Vous cumulez, en général, plusieurs emplois dans plusieurs établissements scolaires. Est-ce que c'est bien cela?
Oui, c'est ça. La situation actuellement des enseignants en Haïti est très critique. Critique, pourquoi? Parce que les enseignants, aujourd'hui... et n'arrivent pas vraiment à avoir une condition minimale du travail. Donc, les enseignants travaillent et ils travaillent bien souvent, on va dire même, et au détriment de leur vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, beaucoup d'enseignants sont dans la salle de classe. Ils ne sont pas rémunérés par l'État haïtien alors qu'ils travaillent tout le temps.
Mais ils vivent de quoi?
De quoi ils vivent? Eh bien, ils sont restés là pendant plusieurs années et ça a pour effet quand même, des fois, on voit qu'il y a des répercussions sur les systèmes et le taux d'échec.
Mais attendez, un enseignant ne peut pas enseigner des années gratuitement, il faut bien qu'il nourrisse sa famille.
Mais de quoi vit-il? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, bien souvent, il est obligé d'aller dans le privé, chercher de quoi et des cours. D'accord, pour enseigner, bien sûr. Et
à la place de ses heures de cours dans le public,
ou parallèlement? Parallèlement, parce qu'il n'est pas rémunéré.
Il y a beaucoup d'absentéisme des enseignants dans le public, quand les salaires n'arrivent pas?
Bien sûr, oui.
Joël Dacosta?
Oui, on se rend compte en fait qu'il y a vraiment un système parallèle. C'est-à-dire que bon nombre d'enseignants dans le public n'ayant pas de salaire, parfois depuis plus de 4 ans, le chiffre est vraiment assez incroyable à entendre, mais c'est vraiment la réalité de bon nombre d'enseignants. Donc ces enseignants-là, comme vous venez de le dire, pour pouvoir vivre, essayent un petit peu d'aller vendre leur expertise dans des écoles privées. Parfois, ils cumulent même plusieurs écoles privées dans une même journée.
Oui, si vous permettez, je vais revenir pour dire que, parlant de la situation critique des enseignants, ceux qui ont une lettre de nomination, par exemple, la majorité d'entre eux n'ont pas accès aux soins de santé. La majorité d'entre eux n'ont pas accès à des crédits. La majorité d'entre eux, quand même, le salaire qu'ils reçoivent donc ne leur permet pas vraiment de vivre pendant une semaine, voire un mois. D'accord, ça représente, on peut faire l'équivalent, ça représente environ 150 euros par mois, ce qu'ils gagnent.
Donc ils ont eux-mêmes évidemment des difficultés pour scolariser leurs propres enfants.
Il faut dire aussi qu'il y a certains professeurs qui travaillent dans des écoles publiques, mais qui ne travaillent pas dans des écoles privées et qui ne touchent pas. Et à ce moment-là, ils sont obligés de faire tout ce qu'ils peuvent pour travailler, parce que le problème d'emploi est posé dans le pays. Quand la personne trouve la possibilité de travailler dans une école, même quand elle ne reçoit pas encore son salaire, elle a de l'espoir qu'un jour, elle va recevoir son salaire. Donc,
c'est pour ça qu'il reste.
En quête d'espoir, de nomination, d'un contrat, quelque chose comme ça.
Et nous, syndicats haïtiens, qu'est-ce qu'on a fait? Constatant ce problème-là, on a nos partenaires français, Solidarité Laïque, dans le cadre de ce programme-là, Solidarité laïque nous a permis quand même de mettre en avant les droits des enseignants en réalisant un document qu'on appelle guide syndical, en mettant en avant ces droits, et également en faisant une campagne de vulgarisation de ces droits, parce qu'avec ça, et bien sûr, ils vont être sensibilisés pour mieux revendiquer leurs droits, et pourquoi pas aux autorités de les faire respecter, d'appliquer ces droits-là.
En somme, Solidarité laïque fait de l'appui syndical, en même temps, dans de très nombreux pays, y compris Haïti, les ministres de l'Éducation disent toujours les syndicats enseignants, c'est ceux qui nous empêchent d'avancer, de faire des réformes de fond. C'est vrai en Haïti ou pas?
C'est plutôt l'opposé, en fait. Les syndicats haïtiens, depuis des années et des décennies, souhaitent des réformes, en fait. Donc, Solidarité laïque, à travers ce programme que nous menons depuis 2011, essaye de faire en sorte que le ministère écoute, en fait, les syndicalistes haïtiens, qu'un vrai dialogue social puisse se mettre en place pour qu'il y ait une co-construction entre les partenaires de la société civile et les représentants du gouvernement. En tout cas, c'est vraiment l'esprit des différents syndicats.
Pour faire quoi, par exemple?
Pour modifier complètement, en fait, la situation, c'est-à-dire rééquilibrer complètement le secteur, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'écoles publiques que les écoles privées. Je pourrais peut-être laisser la parole à Martine, comme ça tu pourras évoquer quelques revendications précises.
Alors, oui. Avant les revendications, ce que je voulais préciser,
c'est
que...
Les revendications, il ne faut pas les avancer à la dernière minute avant le journal, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui. Alors, c'est pour dire qu'il y a des enseignants qui sont dans les salles de classe et qui ne sont pas rémunérés, mais il y a aussi des gens qui reçoivent des chèques et qui ne sont pas en salle de classe. Donc, c'est vraiment la corruption qui...
Et qui reçoivent des chèques préciser, de qui, alors?
Par rapport à ce que Mathilde vient d'évoquer là...
Du ministère.
Des enseignants qui reçoivent des chèques du ministère.
Est-ce que je peux préciser pour dire que ces enseignants-là, ce ne sont pas des enseignants régulièrement et disons, qui rentrent régulièrement dans le système. Ce sont des enseignants que les politiques ont poussé en avant pour quand même rentrer dans le système. Ce ne sont pas des enseignants.
Mais pour faire quoi?
On ne peut même pas les appeler enseignants.
Mais pour faire quoi?
Mais pour faire quoi? Pour qu'ils puissent avoir un boulot quand même.
Récompenser les militants.
Récompenser les militants politiques.
Donc, emploi fictif, enseignant dans une école qui n'existe pas. C'est ça.
On peut même aller, oui, jusqu'à ça.
C'est ce contre quoi nous, syndicalistes, nous, syndicats haïtiens, nous combattons. Pour dire que ce sont les enseignants qui doivent s'en charger des questions d'éducation. Et nous prenons parallèlement ce qu'on appelle la professionnalisation du métier enseignant. N'importe qui ne peut pas venir de nulle part pour rentrer dans le système.
Justement, sous la pression des bailleurs de fonds, on a dit qu'il manquait des enseignants pour scolariser autant d'enfants. Il y a eu tout de même un programme de régularisation d'enseignants, si je ne me trompe pas, ces derniers temps.
Du métier d'enseignant.
Ronald Roland.
Oui, il y a eu un document de professionnalisation du métier d'enseignant, parce que n'importe qui, en Haïti, n'importe qui, on s'en sert de...
35 000 permis, ouais. Ça y est, j'ai retrouvé mon chiffre, de permis d'enseignant ont été distribués de manière provisoire en 2015.
Oui,
oui. Ouais. Et pour parler de ce programme-là...
Alors c'est quoi ça?
Ce programme-là est découlé
C'est un recensement, donc des enseignants. Les enseignants ont été recensés, 35 000, des codes provisoires ont été distribués dans l'objectif de faire une évaluation et de voir qui est-ce qui peut vraiment continuer à enseigner avant de délivrer des permis définitifs.
Mais ces permis-là, quand même, c'est quand même une bonne décision au départ, par la suite, rien n'est fait quand même pour évaluer les enseignants.
Et ça, c'était quand même limiter les emplois fictifs, justement,
bien sûr,
non?
Bien sûr, mais quand même, et ça n'a pas été vraiment contrôlé. Et ensuite, je viens de parler de professionnalisation du métier enseignant, mais jusqu'à présent, après avoir délivré ces permis-là, aucune formation n'est faite pour ceux-là qui sont dans les salles de classe. Et c'est ce que nous, encore syndicalistes haïtiens, nous exigeons de l'État haïtien, des formations pour les enseignants. Et pour par la suite quand même et changer leurs conditions de travail.
Et la fameuse carte avantage éducation, qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'on peut parler vraiment de carte avantage éducation? Et quand même dans le texte
Non mais je vous pose la question, c'est censé servir à quoi?
Quand même, laisse-moi vous expliquer pour vous dire que il y a un arrêté qui a été sorti en mars 2014 parlant du statut particulier des enseignants. Tout ça est resté dans les textes. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret vraiment dans la réalité, d'accord? Mais ce qu'on peut dire, avec la bataille qu'on a menée dans le cadre du programme, par exemple, et d'autres acteurs, nous, syndicalistes aussi, et de la société civile, on a aujourd'hui une carte donnant accès, bon, certainement, ce n'est pas encore trop vulgarisé sur tous les territoires, mais certains enseignants jusqu'à présent ont des cartes avec lesquelles ils peuvent se rendre dans un hôpital, même pour avoir accès aux soins de santé, mais ce n'est pas encore trop vulgarisé.
Alors, cette carte-là, l'idée, c'était de permettre aux enseignants de pouvoir bénéficier de réductions lors de, en fait, dans les supermarchés.
C'est ça, pour donc, améliorer le pouvoir d'achat des enseignants qui est catastrophique.
Mais ce n'est pas généralisé. Donc, on peut... Le nombre d'enseignants à avoir accès à cette carte, c'est vraiment réduit. Il y a eu un lancement, mais ça n'a pas été généralisé.
Il faut dire que la lutte que mène la CNEH, pour la parole de Sylvain aussi, la lutte que mène la CNEH, c'est bien dans, ça va aller dans ce sens-là, permettre aux enseignants de bénéficier au titre de d'autres fonctionnaires de cette carte-là. En fait, les fonctionnaires n'ont pas une carte précisément, mais ils ont des avantages sociaux assez considérables et qui ne correspondent pas aux avantages que l'on donne aux enseignants. Donc, le travail de CNEH, c'est bien de promouvoir ces actions-là.
Oui. Comment est perçue l'aide internationale aujourd'hui en Haïti? 6 ans après le séisme, presque, oui, c'est ça, 6 ans après le séisme, on a, les Haïtiens ont montré une très grande défiance vis-à-vis des organisations internationales, notamment avec l'affaire du choléra apportée par les casques bleus au lendemain du séisme. Mais aujourd'hui, comment vous, les Haïtiens, vous vous situez par rapport à ça?
Par rapport à l'aide.
Pour l'éducation, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui.
La démarche est tout à fait. Et compréhensible et bonne au départ, mais par rapport à l'aide, on doit dire que à cause d'une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, cette aide-là, on ne ressent pas son impact sur le terrain. D'accord ? Donc ça est resté quand même, et je veux dire, là, mais sans rien apporter comme
changement. Mais vous jugez l'aide internationale complice de la malgouvernance de l'État ? Ou victime.
C'est pas l'aide qui est complice, mais c'est plutôt la mauvaise gouvernance qui avait
déjà. C'est la question que je posais.
Oui, c'est ça. Oui, c'est la mauvaise gouvernance qu'il y avait.
Et tout le monde n'a pas le même point de vue, forcément.
Bien sûr. Eh bien, nous sommes pour le renforcement plutôt et de l'État haïtien.
Joël Dacosta de Solidarité Laïque.
De l'aide, mais avec la participation. Enfin, la mise en œuvre des activités doit se faire avec la participation des Haïtiens. Parce que souvent, ce que nous avons constaté, nous avons reçu beaucoup d'aide, oui, c'est vrai, mais les activités, les décisions sont prises pas encore par l'international, où on dit qui finance commande. Et c'est pas. Enfin, les priorités sont définies par l'international, donc c'est pas défini par les Haïtiens. Là, maintenant, avec.
Par exemple, un exemple de priorité qui ne vous convient pas à vous, les Haïtiens, définie par l'aide internationale.
On peut reprendre l'exemple de ce programme-là mis sur pied par la Banque mondiale.
Donc, de l'exemption des frais de
scolarité. De financer les écoles privées.
Vous auriez préféré qu'on renforce le secteur public.
Oui, c'est ça.
Donc, mais ça a été imposé par l'international, justement, parce que c'est l'international qui a financé.
Parce que l'international voulait des résultats visibles, vite. Exactement. Et donc, elle préférait financer les écoles qui étaient sur pied, qui fonctionnaient. Joël Dacosta.
Oui, mais c'est à peu près ça, oui. Après, on se rend compte quand même qu'ils ont financé des écoles fictives, donc même si l'objectif au départ était peut-être louable de leur point de vue, les résultats ont été un peu catastrophiques. Mais juste pour revenir par rapport à l'aide internationale, je pense que en ce moment en Haïti, il y a une certaine lassitude, comme vient de le dire Martine. Malheureusement.
Il y a aussi une lassitude des bailleurs de fonds.
Il y a une lassitude des bailleurs de fonds parce qu'on se rend compte que les financements vers Haïti sont de moins en moins nombreux. Même là, après l'ouragan Matthew, on se rend compte que. On va dire les chiffres qui ont été un petit peu communiqués sont relativement faibles. Il y avait 125 millions de dollars qui étaient demandés. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 10 ou 15% d'un fonds qui a été abondé par l'aide internationale. Et donc, on se rend compte en fait que d'un côté, la population haïtienne se rend compte que l'État a besoin quand même de l'appui international, de financement, parce que malheureusement, le développement économique haïtien ne permet pas au gouvernement haïtien seul de répondre aux différents besoins. Et donc, c'est vraiment un paradoxe. Ce que les Haïtiens souhaitent, c'est vraiment que l'aide internationale puisse être co-construite avec la population haïtienne.
Et c'est l'expérience que nous vivons avec Solidarité Laïque.
Oui. Et plus largement, qu'est-ce que vous demandez au prochain président qui sera, il faut le souhaiter, élu, j'espère, début 2017, Martine Princeton, sur l'école?
Une vraie réforme de l'éducation.
Nous également, nous demandons une réforme et en plus la prise en compte des revendications des enseignants parce que le pays ne va pas pouvoir se reconstruire quand même sans de bonnes écoles sont des gens formés, mais les enseignants, bien sûr, il faut prendre en compte leurs revendications. Sans quoi, eh bien, 10 ans plus tard, on aura les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Donc, on ne va pas sortir dans ce marasme-là.
Ronald Roland.
Oui, je souhaiterais aux politiques, aux nouvelles autorités haïtiennes, de définir le type d'haïtien qu'ils veulent pour le pays. Définir le type d'haïtien va conduire à une stratégie pour y arriver. Et maintenant, à part tout ça, et toutes les autres actions qu'ils vont entreprendre à ce niveau-là vont converger vers cet objectif-là.
Mais voilà. Est-ce qu'il y aurait des réformes concrètes, rapides à mettre en œuvre pour un ministre de l'Éducation ou des textes à faire voter plutôt en urgence?
Mais je pense que oui, parce que là, on se rend compte que l'argent n'a pas été un problème avec, par exemple, le programme Psugo. C'est vraiment des décisions politiques qui doivent être prises. Et l'une des grandes revendications, c'est que le Fonds national pour l'éducation qui a été mis en place ces dernières années puisse être... qui puisse vraiment financer la construction d'écoles publiques très rapidement. Et ça, c'est faisable.
Je précise pour dire que le fonds n'a pas été voté. Au contraire, et c'est ce que nous revendiquons. Non, pas toujours pas voté par le Parlement. C'est ce que nous revendiquons, nous, enseignants. Nous exigeons que ce fonds-là soit voté afin qu'il y ait plus de moyens pour le ministère pour qu'il puisse mener et appliquer ses politiques.
Merci à vous tous et je vous souhaite un très bon retour en Haïti. Merci à vous, Martine Princeton, professeur, membre du conseil d'administration de l'Association des professeurs de français. Maintenant, vous enseignez le droit à l'université. Tony Silfin, syndicaliste enseignant. Ronald Colon du Centre d'appui à la jeunesse et Joël Dacosta, responsable Amérique latine et Caraïbes à Solidarité Laïque. Merci à vous aussi les voisins et les voisines pour vos messages sur les réseaux sociaux et vos appels. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Steven Elsley, Antoine Prénat, lundi 7 milliards de voisins. Quel rôle pour la société civile en Tunisie? On retrouvera d'ailleurs Solidarité Laïque dans quelques secondes, le journal.
Éco d'ici.